Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
T'es grand! T'es très grand!
Jusqu'au bout là, c'est la dernière ligne droite! La ligne droite de ta vie, mon enfant!
Les grandes gueules du sport.
Allez, mon grand! La ligne droite pour toi! Pour ta famille! Pour le cyclisme français! Pour les Bretons! Tu dois le faire!
Jean-Christophe Drouet.
Bon, au moins vous avez reconnu une des grandes gueules du jour. Bonjour à tous, les grandes gueules, c'est votre émission en direct de samedi le dimanche de 9h à midi. On est très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin, comme d'habitude. Évidemment, restez tranquilles, prenez votre petit déjeuner, on s'occupe de tout. On va vous dire tout ce qui va se passer aujourd'hui dans le sport, dans notre actualité sportive. Même si nous sommes le 15 juin, il se passe énormément de choses. On va tout vous raconter, on va vous divertir avec les grandes gueules du sport comme tous les week-ends. Au sommaire aujourd'hui, le PSG fait son entrée en lice en Coupe du Monde des clubs. C'est ce soir face à l'Atlético de Madrid. Cette compétition est-elle vraiment importante pour les Parisiens? C'est la une des GG. À 10h, Tadej Pogacar a écœuré la concurrence lors des deux dernières étapes du Critérium du Dauphiné. Le Slovène, par deux fois, a fait éclater Jonas Vingegaard, le champion du monde. A-t-il déjà tué le suspense du Tour de France? Ce sera le bras de fer des GG. Et puis 11h, c'est le grand absent des championnats de France de natation qui ont débuté hier à Montpellier. Léon Marchand, exempté pour mieux se préparer pour les mondiaux. La natation peut-elle être sexy sans le roi Léon? On se posera la question, on ouvre le débat à partir de 11h. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente. Une grande gueule qui, comme Tadej Pogacar, dès qu'il a un rival, il en fait des confettis. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Ah, j'aimerais bien monter l'école comme lui quand même. Hein. C'est pas tout à fait le même niveau. Hein.
C'est vrai.
Mais les confettis de toi, par
oui.
exemple.
Oui.
Je te transforme en confetti. Tu préfères quoi comme couleur?
Arc-en-ciel.
Ah non, oui, ça m'étonne pas de toi.
Je trouve ça mignon. Voilà, mon Chris. Très heureux de te retrouver ce dimanche matin. Tu t'attendais pas à ça. Une grande gueule qui, comme Tadej Pogacar, il a toujours rêvé de gagner le Tour de France, mais pour lui, ça restera un rêve. Marc Madiot, salut Marc.
Salut.
Ça va?
Ou très bien.
Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Marc.
Un petit moment, ouais.
Bah oui, tu viens plus ici aux soirées. Enfin, plutôt en matinée.
En matinée, je viens quand tu m'invites, en fait.
Oui, c'est vrai, Marco.
C'est quoi ton meilleur classement, d'ailleurs, général sur le Tour de France,
moi,
Marc?
Perso, 8.
Ouais.
C'est beau, 8. Hein.
Qui fait 8 du Tour de France, je te signale.
C'est en quelle année, ça?
83, 24 ans. Pas mal quand même.
Ah bah oui, c'est très bien.
Pour un petit vieux.
Combien d'étapes du tour?
Un petit vieux.
Une individuelle et une par équipe.
Ok. Donc ça fait
une
deux.
Une chrono par équipe.
Ça compte.
Et une individuelle.
Ok. Les papas, je vous souhaite une bonne fête quand même aujourd'hui.
Ah mais c'est vrai.
Et Marc.
Moi, personne. J'ai pas vu mes enfants, ils m'ont pas appelé rien du tout. Quoi. Je suis bon qu'à leur filer des sous, mais j'ai compris.
Tu donnes. Je serais pas ton fils quelque part? Non, pour que tu me donnes un petit peu d'argent. Enfin, si ça te dérange pas.
Bon.
Non. Bon, merci, mon Chris. Une grande gueule qui, comme Tadej Pogacar, n'a jamais gagné Roland Garros. Sarah Pitkowski. Salut Sarah.
Bonjour à tous.
Tu vois, ça arrive aussi aux plus grands.
C'est vrai. C'est ce que je me dis tous les jours. Ça arrive aussi aux plus grands.
Ça va?
Très bien.
Oui.
Très, très bien.
On a fait une bonne émission hier.
Elle était engagée.
Bruyante, mais elle était là.
Bruyante et engagée, c'est ça.
Tu sais quoi, je suis ressortie, mais lessivée de cette émission.
Mais tu sais quoi?
Toi aussi?
J'ose pas te dire que j'ai dormi après tellement j'étais mais cramée, en fait.
Alors en plus, je t'ai mis des animaux avec toi aujourd'hui, hein, comme hier. Mais tu vas voir, tout va bien se passer. On va accueillir, justement, quelqu'un qui va nous mettre... le boxon dans cette émission, je le connais par cœur, une grande gueule qui, comme Tadej Pogacar, il nous le saoule dès qu'il est en haute sa voix. Pascal Duprat, salut Pascal.
Salut Jean-Christophe, salut à tous. Ouais, salut. En fait, tu sais, Jean-Cri, quand j'ai vu la composition des GG ce matin, je me suis dit, et aussi le sommaire, sans le trahir, parce que tu l'as pas annoncé, je me suis dit, Marc, il a le banc dans le dos. Sarah, elle va continuer à être bienveillante et pertinente. Et puis moi, je me suis dit, ben tiens, ma mission ce matin, c'est de faire sortir l'ours de ses gonds. Donc je vais essayer de me friter avec Christophe ce matin.
Tu sais quoi?
Voilà mon objectif.
C'est relativement facile. Il en faut pas beaucoup, hein.
Mais non, je suis tout calme.
C'est vrai, Sarah.
Souvent, Chris, il est survitaminé le samedi. Ça fait une semaine qu'il a pas fait d'antenne. Alors il est survitaminé. Et dimanche, il est un peu plus... Hormis si tu viens de chatouiller les orteils, alors là, évidemment...
Alors, si tu lui dis qu'il parle pas assez, alors là, c'est moi.
J'ai fait le calcul d'ailleurs hier du temps de parole de chacun. Sachez que Christophe vous a tous mangé en temps de parole hier. Les amis, un très beau cadeau à vous faire gagner comme hier. On va vous parler de rugby. Il y a eu les barrages ce week-end. D'ailleurs, on parlera de la qualification du RCT pour les demi-finales du Top 14. Eh bien, sachez que vous pouvez gagner vos places pour la première demi-finale du Top 14. C'est vendredi prochain à Lyon. Match entre le Stade Toulousain et l'Aviron Bayonnais. Tu y seras d'ailleurs, Christophe.
Exactement.
À Lyon pour commenter ces deux rencontres. Matchs. Donc, Stade Toulousain, Aviron Bayonnais. Et puis, il y aura UBB face au RCT. Ça, ce sera le samedi. Pour remporter vos places pour vendredi, vous envoyez dès maintenant rugby au 7-32-16. Rugby au 7-32-16. Le grand gagnant sera dans l'émission.
Voilà. Et je tirerai, comme on l'a dit hier, Denis Charvet en l'air. Oui. Ça a été décidé finalement.
Quand tu... Alors là, il faut écouter l'émission d'hier, les copains. D'ailleurs, quand tu vas là-bas au stade, comme ça, est-ce que tu es content d'avoir Denis ? Parce que comme ça, tu as des places un peu privilégiées au buffet.
Pas du tout.
À la buvette.
Pas du tout, il bouffe tout. Il arrive au buffet, pop, 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 il en met plein les poches, tu repars, il n'y a plus rien.
Mais je crois savoir qu'il organise plutôt bien les soirées.
Ah, oui.
Qui suivent les matchs.
Ouais,
il a des bons plans.
Bah, ça reste un rugbyman quand même, forcément. Oui, oui, oui. Enfin, faut bien qu'il soit.
Mais enfin, à Lyon, il n'est pas sur son territoire quand même.
Il est plutôt sud-ouest.
Je l'ai ramené un jour en quittant Lyon, un match de Coupe du Monde. C'est très compliqué d'aller au stade au Groupama. Donc on prend le tramway et il n'y avait pas d'autre solution pour le retour. Et il se cachait comme ça. Il avait peur d'être reconnu par la foule.
C'est
donc
vrai.
Il se cachait.
Oh, quel boulard. Personne l'a reconnu. Qui reconnaît dit, Denis Charvet?
Si on me reconnaît, je suis mort. Je vais devoir signer des autographes. Ça va être photo et tout.
Et donc, serait très content que tu racontes.
Regardez, vous avez vu, c'est lui.
Vous voulez parler de sport ce matin? Sinon, on fait totalement autre chose. Moi, ça me dérange pas. Hein.
On peut faire si on parle de sport.
Ah si, bon, très bien.
Il y a plein de trucs,
il y a plein de...
On est monomaniaque, alors on y va et on débute cette émission avec un proverbe français. Le mur est plus important que la brique.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Terminé au parc. Victoire 3-1, le doublé de Kvara place désormais la fête et la célébration du titre.
Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini.
Et c'est terminé, coup de sifflet à l'instant même. De Bono Bastien, victoire du Paris Saint-Germain, 16e Coupe de France de son histoire.
Encore. Ça fait beaucoup là, non ?
C'est terminé ! C'est fini ! Paris sur le toit de l'Europe ! 14 ans d'attente pour les propriétaires qataris ! 32 ans après Marseille, le football français remporte une deuxième Ligue des Champions et peut-être ça fait du bien.
Mais à la fin, mais est-ce que ça va finir ?
Pour l'équipe de France, au lycée, il sera en pointe haute derrière Kylian Mbappé dans l'axe d'Embélé à droite. Et Doué à gauche.
C'est fini, oui.
La Coupe du Monde des clubs, ça démarre ce week-end. Ça va durer un mois. C'est le même format que la Coupe du Monde des Nations que vous connaissez, hein, l'ancienne Coupe du Monde à 32. Est-ce qu'on va vibrer pendant cette Coupe du Monde des clubs?
Nous, on devrait avoir trois mois, une plage de trois mois où les jeunes et les joueurs se régénèrent. Régénère.
C'est notre petit billet pour notre ami Denis Charvet que l'on embrasse très fort. Alors après avoir régné sur l'Europe, le PSG va-t-il régner sur le monde? Pour la première fois de son histoire, le Paris Saint-Germain participe à la Coupe du Monde des clubs, une nouvelle version, vous le savez, avec 32 clubs, on en a parlé hier, qui a débuté cette nuit par un formidable 0-0 entre Al Ahly et l'Inter Miami. Deux semaines après son sacre en Ligue des Champions, les Parisiens doivent repartir au charbon et assumer désormais leur statut de favori de cette compétition. La musique qui fout les jetons. Et cette question, ce mondial des clubs est-il vraiment important pour le PSG? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui.
Marc Madiot.
Non.
Sarah Pitkovski.
Moi, je suis un petit oui. Ouais.
Un petit oui. Oui. Pascal un petit Duprat. Oui.
Un grand oui.
Un grand oui, très bien. Il y a beaucoup de nuances et il y a Marc Madiot qui n'est pas content visiblement ce matin. Il va souvent répondre non à nos questions. Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial à Los Angeles, Valentin Germain. Bonjour Valentin.
Salut à toutes et à tous.
Toujours en direct avec nous, Valentin. Il est donc minuit 18
tout à fait.
Pour toi. Tu as basculé dans cette journée du dimanche. Bonne fête à tous les papas, je le rappelle, même pour ceux qui habitent Los Angeles. Valentin, les Parisiens sont-ils à fond pour disputer cette compétition?
Alors officiellement oui, le discours c'est après les célébrations, après la trêve internationale, tout le monde au boulot pour regagner, comme le dit simplement le défenseur Achraf Hakimi.
On a sûrement un objectif à la tête, c'est arriver à rester à risque à la fin, de gagner ces compétitions et aussi de montrer qu'on est les champions d'Europe.
se servir voilà, de cette Ligue des Champions comme tremplin, même si tous les regards sont braqués sur un PSG considéré comme favori hein, maintenant aux États-Unis. Il y avait d'ailleurs beaucoup de journalistes ce matin pour nous au Point Presse, mais pour le milieu Vitinha, il ne faut rien changer, juste garder finalement cette dynamique.
Surtout, il faut faire la même chose qu'on a fait jusqu'à maintenant. Penser dans les choses qu'on fait bien, dans les choses qui nous ont amené jusqu'ici. Si on fait ça, on va être plus proche de la victoire. Si on peut ajouter cette titre encore, c'est une saison historique incroyable.
Et malgré les matchs qui s'enchaînent, la fatigue non-stop, disait Vitinha, il y a cette obsession pour tout un groupe eh bien, de marquer l'histoire. Paris s'entraîne sérieusement, dans la bonne humeur depuis son arrivée, sous l'œil d'un Luis Enrique détendu, mais qui veut mettre la barre encore plus haut pour réussir quelque chose de jamais vu. Gagner ses 5 trophées.
Si nous parlons de gagner des trophées, mais hier ce sera impossible parce qu'on a gagné les 4 qu'on a fait. Mais reste encore cette World Cup et je pense que c'est une compétition très jolie. On a la confiance, on a l'ambition de gagner.
Et il devrait d'ailleurs aligner une équipe type ce soir face à l'Atlético de Madrid.
Merci. Merci beaucoup Valentin, évidemment tu restes avec nous pour ce débat, quelques instants tu nous donneras les dernières informations côté PSG qui affronte ce soir à 21h heure française, il sera midi heure locale, il fera extrêmement chaud d'ailleurs tu nous feras un petit point météo ce match face à l'Atlético de Madrid. C'est marrant comme Luis Enrique, dès qu'il parle français on a l'impression qu'il est allemand, qu'il est plus espagnol.
Il a appris, c'est Marc Madio qui lui a appris à parler français.
C'est fou, ça, oui. Bref, ça n'a rien à voir avec notre débat. Ce mondial des clubs est-il vraiment important pour le PSG? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai un nom, un franc nom. Pourquoi, Marc?
Tout simplement parce que tu as mis la réponse dans ta question. Si c'était vraiment un vrai championnat du monde, tu n'aurais jamais posé cette question à la une de nos GG. Donc, si on en est à se poser la question, est-ce que c'est vraiment important? Ça veut dire que ça n'est pas important. Alors, ça pourrait être important. Si demain on dit voilà tous les 4 ans on fait un championnat du monde des clubs un peu à l'image de ce qui se fait pour les JO et dire tous les 4 ans on fait un championnat du monde des clubs et on supprime une année de Ligue des Champions par exemple et tous les 4 ans on ferait ce championnat du monde, là ça aurait vraiment une dimension.
Ce qui va se passer en rugby par exemple,
mais, pas une compétition, mais aujourd'hui on est en train de faire, on veut nous faire croire qu'on a un vrai championnat du monde. C'est un peu comme si en vélo, je vais faire une comparaison
vas-y.
Avec le vélo, c'est comme si au mois de novembre, on venait dire aux équipes cyclistes, on va vous faire un méga super grand Tour de France en Chine. Ben c'est un peu ça qui se passe avec le foot aujourd'hui. Alors je suis un peu provocateur. Oh. Il est clair et il est évident, bien sûr, que si le PSG allait en demi ou en finale, on va se piquer au jeu et on va dire, bah non, ce serait quand même pas mal de gagner la première Coupe du Monde des clubs.
Oui.
Mais en fait, on est un peu dans un espèce de truc qui ressemble à la Coupe intercontinentale. C'est bien de la faire, c'est bien de la gagner.
C'est parce que c'est nouveau.
C'est un sucre, c'est un gâteau, c'est une petite récompense ultime et c'est un peu de business pour le club.
Mais quand on
mais si compte, il a Ligue des
Champions. Un peu de business.
La victoire remporterait plus de 100 millions au PSG.
Voilà, on a donné la réponse.
Voilà, moi mon argument pour dire que c'est important, c'est important pour les dirigeants du PSG. Pour les supporters, je pense que ça n'a aucune importance. Pour les joueurs, ça n'a aucune importance, mis à part qu'ils vont prendre encore un énorme chèque, mais c'est pour les dirigeants 108 millions d'euros pour l'équipe qui va l'emporter. Ouais. Ne serait-ce que de participer, tu vas gagner entre 12 et 38 millions de dollars plus une victoire ce soir face à l'Atlético, c'est 2 millions de patates qui tombent dans la poche. Mais c'est mieux que l'euro million, la Coupe du Monde des clubs. Et même si tu es milliardaire qatari, que tu n'en peux plus, tu sais
ça
plus où mettre tes billets, que tu sais même plus où mettre tes liasses de billets, tu sais même plus combien est ton compte à la banque. Mais bon, c'est pas anodin quand même. T'imagines 100 patates comme ça, paf, qui tombent pour une compétition où personne ne va vraiment donner à bloc puisque tout le monde est cuit. Mais c'est génial pour les dirigeants. C'est la Coupe du Monde des dirigeants, la Coupe du Monde du blé. Et grâce à ces 100 millions, ils vont pouvoir encore renforcer leur équipe.
J'étais sûr que t'allais venir sur ce terrain.
Extraordinaire. Et devenir encore plus fort et être champion de France au bout de 10 journées la saison prochaine. Mais elle est pas belle, la vie.
Si on traduit ce que tu viens de dire, t'es d'accord avec moi?
Entièrement.
Ouais, bah oui.
Ah, il est quand même d'accord parce que j'allais dire t'es d'accord avec Pascal et pourtant il va quand même te rentrer dedans.
En termes financiers, parce que le foot, mon Pascal.
Pascal, t'es un vrai puriste du foot et toi tu cautionnes
j'ai mal
ça.
À la tête,
toi, un vrai du foot, tu vas cautionner.
Voilà pas que j'en ai deux. Voilà pas que Marc Madio
se transforme en un féroce, comment dire, prédateur. Il veut me bouffer aussi. Et voilà, je pensais qu'il y avait Christophe. Non, Marc, s'il te plaît.
Non.
S'il te plaît. Cette compétition, certes, c'est la première fois. Ils essuient les plâtres, donc on a du mal à s'y faire. Mais cette compétition, si tu veux bien te défaire de cette première fois, du fait qu'elle est placée, coincée entre deux championnats, que les joueurs, on se demande comment ils vont récupérer, là, je te l'accorde, c'est un peu compliqué en termes de calendrier. Mais cela dit, cette compétition, elle est quand même jolie. 32 équipes du monde entier, des 5 continents, qui vont se défier l'espace d'un mois. La compétition mondiale des clubs, c'est quand même joli. Et le Paris Saint-Germain qui est aujourd'hui nouvellement champion d'Europe pour la première fois de son histoire, voilà pas que le PSG étreigne 15 jours après son titre. Et vous êtes en train de me dire que c'est pas important pour le PSG,
c'est juste important
pour les dirigeants. Mais ils en ont rien à foutre des 100 plaques, les dirigeants. Ah bon. C'est important pour les supporters. Si, peut-être que les 100 plaques, ça permet à payer les arriérés. Ça permet à payer les arriérés de Mbappé. Non, mais ça permet. Ils ont tellement de blé, ils s'en foutent des 100 briques. Voyons, Christophe, ils ont de l'argent.
Mais tu imagines pour le pauvre petit...
Laisse-moi terminer mon argumentation.
Mais imagine le pauvre petit footballeur qui se saigne pour aller voir des matchs et tu lui dis, mais de toute façon, ils en ont rien à faire.
C'est gratuit.
100 millions.
Non mais la retransmission est gratuite. Tu verras que les gens vont adhérer. Et si le PSG va loin, eh ben tout le monde va adhérer.
Sûr,
tu dis que les supporters du PSG, ils en ont rien à foutre. Mais moi, je pense que les supporters du PSG, ils ont envie de voir leur équipe continuer à gagner. Tu me dis que les joueurs, ils en ont rien à foutre. Mais c'est comme, prenons la Coupe des Nations, c'est ça, qui remplaçait les matchs amicaux pour les sélections nationales.
La Ligue des Nations, t'as vu
au début, tout le monde disait ça sert à rien, c'est juste pour supplanter les matchs amicaux.
Moi, j'aime bien.
Moi, cette année, j'ai vu Ronaldo pleurer.
Okay. Il pleure toujours.
Ça fait 4 ans ou 5 ans qu'elle est instaurée. Il pleure toujours. Voilà. Ouais. T'es toujours en train de tailler les vedettes du foot, toi, de toute façon. Donc, heureusement, tu vas pas t'énerver trop longtemps parce que dans un quart d'heure, elle est finie. L'émission, pour nous, il y aura plus de foot. Parce que l'émission, elle est faite pour toi. Tu vas pas couper les micros.
Tu vas pas le mettre à pleurer, mon Pascal.
C'est une merveilleuse compétition. Arrête de faire du prosélytisme comme ça.
On dirait un moine, tu sais, qui va en Afrique comme ça pour essayer d'éveiller les consciences et de ramener à lui le bon peuple. Écoutez-moi, croyez-moi, je vous le dis, le football, c'est l'évangélisation du Père Duprat.
Mais arrête. Et hey, tu sais quoi, il m'aurait manqué quelque chose si je t'avais pas connu. Alors,
là, on est en train de dériver. On n'est plus du tout sur le débat. On est carrément sur les attaques personnelles. J'adore ça, hein. Moi je me régale, hein. Là j'ai pris le pop-corn avec Sarah, on est au spectacle. Sarah, revenons à notre débat. Pourquoi c'est un petit oui? Pourquoi c'est quand même un peu important pour le PSG?
C'est un petit oui parce que effectivement de rajouter ce titre à cette saison gigantesque, énorme, fantastique du PSG serait la finir de manière fantastique et eux pourraient dire qu'à jamais ils seraient les premiers, puisque c'est toujours du côté de l'OM que cette petite phrase revient. Mais c'est vrai qu'ils seraient à jamais les premiers. Gagner une première compétition, c'est important, sachant que le PSG, c'est aussi une marque qui veut s'internationaliser, en tout cas qui veut conquérir l'Amérique. Donc ce serait parfait. Mais pourquoi je dis un petit oui? Parce que je pense que pour le staff, il y a quand même une prise de risque. Il y a quand même une prise de risque de savoir comment tu vas gérer ton effectif. Comment tu vas encore les concerner? Alors là, il te le dit, quand tu lis, tu sens encore une certaine euphorie de la part des joueurs. Mais parce que le premier match, il va arriver. Mais c'est le 13 juillet. Il y a encore un mois à tenir. Donc, cette euphorie après cette Ligue des Champions, elle risque de s'atténuer un petit peu. Et pour preuve, Luis Enrique, il a accepté que les familles viennent avec les joueurs pour pas que ça soit trop long. Il faut trouver un moyen de les garder concernés. Et puis quand on va leur dire,
c'est comme la journée de repos du Tour de France, quoi. Tout le monde arrive, tout le monde fait la fête.
Mais parce que si le 14 juillet, effectivement, le PSG soulève cette coupe, cette première coupe, Mais c'est un mois après qu'il faut repartir pour le championnat. Ça,
ils, ils auront trois semaines de repos.
Mais
trois
semaines mais de repos.
On bouffe le calendrier.
Il va faire tourner son effectif en début de saison. T'as raison, mais il faut qu'il n'y ait pas de casse. Faut qu'il n'y ait pas de casse et pas de casse importante.
Mais la casse, on la verra pas là, j'imagine.
Mais la casse, c'est Pascal,
il s'en fout, on achève bien les chevaux, on achève bien les footballeurs.
C'est Jubalji, c'est des choses qui peuvent durer.
Ok, affligeant.
Tu fais tourner ton effectif, mais il ne faut pas que la blessure, même si tu fais tourner ton effectif, elle empiète sur ton premier trimestre de la Ligue 1. Donc c'est pour ça que je dis un petit oui, parce que je suis un peu comme Christophe. Je pense que ceux qui mettent le coup d'accélérateur et qu'ils disent « Ouais, on est super contents, il faut aller la jouer », c'est effectivement les dirigeants. Mais Luis Enrique, je pense pas que ça soit son objectif premier, surtout qu'il a touché du doigt ce que le Qatar et que le PSG, que tous les Français rêvaient, enfin ceux au-dessus de la Loire. Quoi.
Comment réussir justement à se remotiver pour ces Parisiens quand on a goûté à la plus merveilleuse des compétitions? Là, elle peut être très belle, évidemment, mais comment repartir? Là, tout de suite, on se posera la question dans quelques instants. Et puis, on prendra les dernières informations en direct de Los Angeles avec Valentin Jamin. Restez avec nous. On reste un instant sur ce débat. Et puis, venez nous dire ce que vous en pensez, évidemment, au 32-16. Et venez aussi arbitrer le match entre Pascal et Christophe, voire entre Pascal d'un côté et Marc et Christophe de l'autre. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h33, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Marc Madio. À partir de 10h, on ouvre le dossier Pogacar qui a été encore magnifique hier lors du critérium du Dauphiné, ce qui l'a tué le suspense sur le Tour de France 2025. On se posera la question, ce sera le bras de fer des GG. Vous n'êtes pas d'accord, mais GG. Mais restons un instant sur ce mondial des clubs qui débute donc aujourd'hui. Il y a eu cette nuit le premier match entre Al Ahly et l'Inter Miami, 0-0 entre les deux équipes. Il y avait la formation évidemment de Lionel Messi. Le match ce soir à 21h, à suivre en direct en intégralité sur RMC entre le PSG et l'Atlético de Madrid. On retrouve à Los Angeles notre envoyé spécial Valentin Jamin auprès des Parisiens. Alors on se demande évidemment si cette compétition est vraiment importante pour le PSG. En tout cas, ce soir, sauf les blessés, Luis Enrique va envoyer la grosse équipe.
C'est la tendance, oui, c'est la tendance, parce que c'est le match le plus important pour Paris dans cette phase de poule. Après, ce sera Botafogo et Seattle, donc on va dire qu'une victoire ce soir, et c'est quasiment la qualif en poche, donc on devrait se rapprocher de l'équipe qui avait battu l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Donnarumma dans la cage, Pacho, Marquinhos, la charnière, à droite Hakimi, à gauche de la défense Nuno Mendes, le milieu qui fonctionne, Vitinha, Neves et Fabian Ruiz. Dembélé étant blessé en pointe, on devrait voir Gonzalo Ramos, le Portugais, qui a été d'ailleurs très efficace aujourd'hui sur les exercices de finition devant le but. À sa gauche, Kvaratskhelia, à sa droite, Désiré Doué. Voilà pour la compo probable, même si à la marge, ça peut éventuellement bouger. Zaïre Emery peut s'incorporer, mais dans l'idée, on devrait retrouver la grosse équipe. Donc Dembélé est le seul forfait. Moscardo, le jeune milieu de terrain, est incertain. Et puis des nouvelles de Barcola. On vous disait hier qu'il avait repris l'entraînement collectif. C'est vrai, mais aujourd'hui, par exemple, il a fait une grosse partie avec tout le monde et n'a pas terminé pour notamment ses exercices de finition devant le but. Donc on va évidemment le préserver et le mettre sur le banc au coup d'envoi.
Avant de te libérer, Valentin, et de te souhaiter une bonne nuit, un petit point météo, parce que le match, je le disais, c'est à 21h ce soir, midi, heure locale. Il va faire extrêmement chaud.
32 degrés attendu au thermomètre, hein, 32 et ressenti du coup plus 36-37. Le Rose Bowl, c'est le stade où il joue, est tout à fait ouvert, complètement ouvert, donc il y aura pas un petit peu d'ombre grâce au toit. Donc effectivement, les conditions vont être difficiles, assez humides. L'indice UV aussi est de 11, c'est considéré comme extrême par les spécialistes. Donc c'est vrai que c'est difficile. Paris, depuis son arrivée, s'entraîne à la mi-journée un petit peu pour s'habituer à ces conditions. On a beaucoup mis l'accent au niveau du staff, on l'a répété cette semaine, sur l'hydratation, la bonne récupération pour les joueurs. Mais voilà, Vitinha et Hakimi en ont parlé. Vitinha notamment disait, c'est vrai qu'avec les cadences, les voyages, la sélection, se retrouver à jouer à midi sous 32 degrés, c'est pas l'idéal. Mais comme l'a dit Luis Enrique, ce sera la même chose pour les deux équipes et à celle qui s'adaptera le
but. On va les envoyer sur le Tour de France en pleine canicule, tu vois.
Oui, en plus, on fait faire du vélo au mois de juillet. On va
ils
les laisser
pas les
se reposer
avec la glace, là.
Merci beaucoup, Valentin, et bonne nuit. Et on te retrouve évidemment
un peu
plus tard sur RMC pour commenter cette rencontre.
Découvrir Los Angeles by night.
Ah oui, c'est vrai.
J'aimerais bien, mais avec les horaires, malheureusement, on doit travailler jusqu'à minuit et après faire les émissions, etc. Donc on peut pas trop faire la
voix. Avec moi,
à minuit, c'est l'heure où ça commence.
Exactement, ouais. Marc, un habitué évidemment des soirées. Pascal, tout de même, comment
concerner son groupe et surtout comment faire ce numéro d'équilibriste entre jouer cette compétition et préparer la suivante. Est-ce que ça, pour un entraîneur, c'est un casse-tête sans nom?
Ça, c'est nouveau, par contre. Donc, moi, je suis curieux. J'aimerais bien savoir comment les prépas physiques de Luis Enrique vont s'arranger pour faire en sorte que, après cette compétition, les joueurs récupèrent pour ceux qui auront beaucoup joué et surtout pour redevenir très vite compétitifs en championnat et pour les joutes européennes. Ça, c'est un.
Est-ce que c'est grave?
Ça va être un vrai problème.
Est-ce que c'est grave de balancer le mois d'août en Ligue 1? Est-ce que quand on joue cette
pour le Paris Saint-Germain, pour le Paris Saint-Germain, c'est pas grave.
Non, mais tu déséquilibres le championnat si tu joues. Enfin, si tu commences un championnat où ton champion en titre va jouer. Enfin, c'est pas cohérent. Enfin, même pour le championnat, la Ligue 1, ça serait invraisemblable s'ils faisaient ça, non? Ça vous choquerait pas?
Non, mais nous sommes en train de parler du Paris Saint-Germain et nous sommes en 2025 et en 2025, on a 30 ou 35 joueurs compétitifs quand on est le PSG.
Oui.
Donc, le PSG va pas, foutre la compétition en l'air sous prétexte que 6 ou 7 joueurs ou à tour de rôle, il va y avoir en début de saison un turnover, je ne pense pas. D'autant qu'ils vont aussi recruter, hein. Donc, le PSG va être encore une fois très armé, encore plus armé qu'il ne l'était la saison dernière de mon point de vue, et ils vont être très vite, tout de suite, très vite compétitif, même s'il va y avoir des aménagements, ça, on doit s'y attendre.
On sait ce que les joueurs vont toucher comme prime en jouant cette compétition en plus?
Non, ouais, pas encore.
Vous êtes toujours en train de parler de pognon dès lors qu'il s'agit de football.
Sarah, c'est la première fois.
Tu choques Pascal.
En fait, il déteint sur toi, Sarah. Fais attention, il déteint sur toi. Il déteint sur toi. Vivement qu'il parte en vacances.
Oui, enfin bon, il n'empêche que
la question de notre encore mode qui dit comment motiver ses joueurs. Un sportif, il est
parce que c'est des compétiteurs. C'est la coupe du monde des clubs, c'est la première.
Les joueurs de foot, ils ont
mais peut-être qu'ils ont envie de... mais ils y sont en plus, ils ont les familles, tout ça, ça fleure bon l'été, mais il fait chaud.
Oui,
ils ont terminé leur match,
c'est pas désagréable, c'est clair. Oui,
bon, franchement, il y a pire. Donc, je pense que ce sont des compétiteurs. Oui. Des compétiteurs hors pair. C'est des champions.
Oui,
donc ils ont envie de gagner. Dès lors qu'ils vont être sur le terrain, ils vont avoir envie de gagner.
Ils vont voir l'Atlético. S'ils sont en demi-finale, j'imagine bien les joueurs.
S'ils sont en demi-finale, ils vont dire,
on est plus loin du truc, allons-y.
Oui, mais Marc, pour aller en demi-finale, faut sortir de la poule quand même.
Ils s'emmerdent un peu. Après.
Jouer l'Atlético, c'est pas s'emmerder, hein. Je suis désolé.
Non, mais bon. L'Atlético est dans la même situation.
En tout cas, Infantino, s'il a besoin d'un responsable de la com, moi j'en ai un tout trouvé pour lui, hein, parce qu'il fait.
Merci Christophe. Tu ferais un bon commercial pour moi.
tu sais quand même que les primes vont jouer leur rôle. Tout bon joueur de foot qui se respecte ou tout sportif qui se respecte.
Ils gagnent de l'argent tout le tour du ventre. Arrêtons avec ça. Les primes, c'est accessoire pour eux.
Ils sont.
Ils ont des salaires de fou au PSG. Les primes, ils s'en foutent royalement. Et aussi, c'est pas parce qu'ils gagnent du fric qu'ils ont pas envie de gagner simplement pour la beauté du sport,
on est d'accord.
Parce que j'imagine que Pau Gachar, il emplâtre un peu. Et pourtant, on va en parler tout à l'heure. Vous m'avez dit qu'il gagne tout. Il a toujours envie de gagner, c'est le cannibale, le nouveau cannibale.
Donc, c'est pareil pour le foot. On en parle à 10h. Philippe nous appelle au 32-16. Il veut participer au débat. Bonjour Philippe.
Salut les GG. Alors là, je fume.
Ah bah vas-y, dis-nous.
Bravo Pascal. Alors je suis mille fois d'accord avec toi.
Enfin un allié Pascal.
Enfin un connaisseur.
On t'en a trouvé un.
Laissons parler Philippe.
Marc, t'es vraiment un pisse-froid. Hein, parce que t'as des pognons pour cette Coupe du Monde de club. Mais vraiment, t'es un pisse-froid. Toi qui es un sportif renommé, qui es un manager renommé, avec des titres, en veux-tu en voilà. Comment tu peux parler de pognon à la place de parler du jeu et du sport en général?
Le réalisme.
On a la chance, Pascal, Marc, oui. On a la chance d'avoir un club français
qui représente
la France
oui.
dans une compétition qui se veut nouvelle, ou soi-disant nouvelle. On a la chance d'avoir ce club. Moi, je suis supporter du PSG depuis 1978. Je vais au parc. J'ai vu des branlées qu'on a pris à droite, à gauche, au parc aussi. Et moi, je veux que le PSG s'investisse à fond. Et je n'ai pas de doute que les joueurs ils vont jouer la compétition à fond. Et ça, et connaissant Enrique, il va les faire jouer.
Parce que non, sinon, on est d'accord, il va les faire jouer. Bon, on est plus sur la philosophie de cette Coupe du Monde qu'autre chose, c'est ça le truc.
Mais non, mais parler de pognon, on s'en fout du pognon. Les mecs qui sont gavés de pognon. Là, la prime qu'ils peuvent éventuellement avoir, c'est un pourboire qu'ils vont avoir. C'est un pourboire.
Exact.
Voilà, c'est juste un pourboire. Ils n'en ont rien à foutre. Par contre, la ligne champion du monde des clubs, c'est la première fois, hein, monsieur. La première fois, un club français champion du monde des clubs. Eh ben, bravo. Et moi, j'espère que le PSG soit champion du monde. Et je l'espère sincèrement.
Et le début de l'aventure. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous dans cette émission, d'avoir interpellé les GG, notamment Marc. Le début de la compétition, le début de l'aventure, c'est donc à 21h ce soir, heure française. Hein. Le PSG face à l'Atlético de Madrid. Et puis ensuite, il y aura donc ce match face à Botafogo. Et Seattle, ça, c'est pour la phase de poule. Et ensuite, on l'espère pour les Parisiens, direction les huitièmes de finale. Ça fait qu'il y a une radio digitale sur RMC qui a donc débuté depuis cette nuit, radio digitale autour de la Coupe du Monde des clubs. Tous les matchs commentés sur RMC, vous téléchargez l'application évidemment dans les différents shows. On vous tiendra au courant, notamment des dernières nouvelles du Paris Saint-Germain. Vous pouvez aussi aller sur rmcsport.fr. 9h43, allez, on passe à autre chose les amis. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur le rugby. Il y a eu des matchs très importants hier, également en judo et aussi les 24 heures du Mans qui se poursuivent avec Ferrari en tête. À tout de suite sur RMC pour le on s'en fout pas.
Moi cette année, j'ai vu Ronaldo pleurer, ok.
RMC jusqu'à midi.
Ils vont pouvoir encore renforcer leur équipe et devenir encore plus forts et être champion de France au bout de 10 journées la saison prochaine.
Tu vas pas t'énerver trop longtemps parce que dans un quart d'heure, elle est finie. Il y aura plus de foot. Parce que l'émission, elle est faite pour toi.
Les grandes gueules du sport.
C'est la Coupe du Monde des dirigeants, la Coupe du Monde du blé.
Arrête. Hey, tu sais quoi, il m'aurait manqué quelque chose si je t'avais pas connu dans ma vie.
Jean-Christophe Drouet.
Du grand Pascal Duprat avec Christophe Cessieux. Ce matin, ça commence extrêmement fort, évidemment. C'est déjà disponible en podcast.
Moi, j'ai envie de le recruter pour le tour. Non, il serait pas mal, Marc.
Ah oui. Il serait parfait. Hein.
Surtout que c'est. Je kiffe le Tour de France, vous pouvez pas vous imaginer. Mais je kiffe le vélo.
Quand vous êtes dans les Alpes, là, invitez Pascal à venir dans le camion RMC.
Il habite dans une pinède avec une villa qui donne sur la Méditerranée. Je crois qu'on nous laisse rentrer.
Aujourd'hui, on peut se déplacer. On peut se déplacer aujourd'hui, Christophe.
Ah, on est du copain. Oui, tu sais que tu peux le faire.
Si j'ai envie d'aller sur le tour, j'irai sans vous et j'irai vous saluer, tiens. juste pour t'emmerder. En fait,
je devrais pas vous lancer en fait parce que sinon on est reparti pour 5 minutes. Bon, sachez en tout cas qu'on parle du Tour de France à partir de 10h. Est-ce que Pogacar a tué le suspense déjà là sur le critérium du Dauphiné? On se posera la question, mais tout de suite on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Allez, quelques informations à vous donner, l'actualité de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est le RCT qui rejoint l'UBB en demi-finale du top 14. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
C'est magnifique.
Ça rapide, Gaspi.
Non, on s'en fout pas.
Ok, Marc Madio. Pascal Duprat.
Ah non, je m'en fous pas.
Le RCT s'est donc qualifié pour la première fois depuis 2017 pour les demi-finales du top 14. Les Varois ont dominé Castres 52-23 à Mayol. Alors le score peut paraître large, mais ça a été tout de même serré durant une bonne heure de jeu. Toulon affrontera et défiera l'UBB en demi-finale samedi soir prochain à Lyon. Écoutez Pierre Mignoni, pardonnez-moi, le coach du RCT.
C'est une étape importante pour nous parce que passer le quart de finale en sachant qu'on en a perdu l'année dernière, c'est important mentalement de montrer nos progrès aujourd'hui par rapport à la dernière saison en tout cas. Aujourd'hui c'est fait, je pense que c'est bien fait, c'était pas parfait. Pour moi on a juste à profiter un peu ce soir, mais on n'a rien à célébrer, juste avoir un peu plus de confiance pour la semaine prochaine.
Rien à célébrer ce soir, ça fait tout de même du bien, Christophe, de revoir Toulon à ce niveau-là.
Oui, puis ça va nous donner lieu à une superbe demi-finale. La première, on en a parlé hier, c'est Bayonne-Toulouse, déjà c'est assez excitant, mais alors la deuxième, elle est encore plus excitante, entre le deuxième et le troisième du top 14. Le RCT qui l'année dernière s'était fait corriger à la maison par La Rochelle et avait dû abandonner tout espoir d'aller décrocher le titre. Là, ils ont peut-être un coup à jouer quand même face à l'Union Bordeaux-Bègles, d'autant que le match se fera sur terrain neutre. Ce sera à Lyon samedi prochain. Ce sera une redoutable affiche. Ça me fait penser, moi, RCT-UBB, ça me fait penser à Bègles qui était opposé à Toulon dans les années 90 avec un certain Vincent Moscato, Serge Chimon. J'espère que ce sera un peu plus calme. Hein. Ils se sont un peu calmés quand même, les joueurs, aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une magnifique affiche qui nous attend samedi.
Et tu commenteras cette rencontre et ce sera à suivre sur RMC. Pascal, rapidement sur le RCT, toi qui adores cette affiche.
Moi, je...
Ouais, j'adore cette équipe. Et hier, Manonou, il a marqué un essai à 43 ans.
42, 43, ouais, ça c'est énorme.
43, il est né en mai 82, donc tu t'imagines, 43 ans, il a marqué un essai. Je crois que ça peut être depuis 2017, ou la dernière fois qu'il a marqué un essai, c'était déjà contre Castres. Et avec le RCT, bien sûr. Bah, c'est juste génial. Et je pense que Yannick Bru, il va préparer ça sérieusement parce que c'est les costauds, les Toulonnais.
Exactement. Attention. UBB, RCT samedi prochain et donc le vendredi soir.
En fait, il y a le respect du classement de la saison régulière. Hein.
Là, on est dans la logique totale.
Oui, on est dans c'est la logique ça. Totale, mais vous êtes en train de nous dire, hier, on en parlait, que Bayonne a peut-être une carte à jouer. En tout cas, selon Denis. Mais Denis dit que Bayonne a...
Ouais. Mais Denis, tu l'écoutes encore sur le rugby?
A priori, comme ça, de manière spontanée, oui, un peu. Okay. Tu vois, oui, un peu.
Alors, ne sois pas spontané et on embrasse évidemment Denis. Bon, alors,
Bayonne, Adrien, c'est cadeau, tu peux lui passer lundi.
Mais donc, là, de ce que tu viens de dire, c'est que Toulon a aussi une petite carte à jouer contre l'UBB. Donc, les demi-finales vont être super intéressantes.
Les demi-finales, ça se serre quand même, ça se resserre.
Ça sent bon les grands clubs qui ont joué l'Europe. Tout à l'heure, on parlait de Ligue des Champions avec le PSG. Et là, on a au stade des demi-finales des clubs français.
Et bientôt, on aura aussi une Coupe du Monde des clubs en rugby. On enverra Pascal comme directeur de la COP.
Et tu nous parleras de pognon.
Coupe du Monde des clubs en rugby, ça se discute. Hein, parce que monde rugby...
Parfait.
C'est pas très monde, représentatif non plus.
Ok, on n'entame pas ce débat, même si on en a souvent parlé dans cette émission. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Perpignan qui reste en top 14. C'est important d'en dire un mot, on s'en fout pas. Sarah Pitkowski.
Bah, je m'en fous pas, c'est surtout pour Grenoble qui est pour la troisième fois monté en top 14, quoi.
Oui, pareil.
Ok.
Pareil, Sarah.
Des copains. Alors déjà, pour l'USAP, comme en 2022 et 2023, l'USAP a gagné le match le plus important de l'année. Pourtant, les Perpignanais ont été malmenés par Grenoble, mais ils ont réussi à s'imposer sur la fin 13 à 11. C'est évidemment le barrage d'accession top 14 Pro D2. Perpignan qui jouera dans l'élite la saison prochaine. Pour Grenoble, vous l'avez dit, c'est la poisse qui continue. Ouais. Eux qui ont été battus cette année en finale de Pro D2. Nouvelle désillusion pour les Grenoblois. On va écouter tout de même le coach de Perpignan, le manager Franck Azéma.
C'est notre histoire. Quand tu arrives là, que tu vois cette furia, cette identité, l'intensité qu'il y a dans tous les déplacements, c'est ça qui fait la vie d'un club. On n'a pas les ressources des autres, mais par contre, on a cette force, c'est qu'on est un petit territoire et qu'on se mobilise tous ensemble. Et ça, c'est admirable.
Admirable pour les Perpignanais. Vous voulez parler de Grenoble?
Bah ouais, moi je trouve que c'est j'ai beaucoup de peine pour cette équipe qui a réalisé une saison exceptionnelle, qui a été en tête du début à la fin quasiment, et qui en l'espace de 15 jours a vu une nouvelle fois son rêve s'évanouir. Et je trouve que la formule est quand même à revoir. C'est-à-dire que le premier de la ligue devrait quand même accéder directement au top 14. Il a mérité ce droit sur le terrain, et là bah tu lui fais passer le gâteau devant le nez, il rate la première bouchée, puis tu le fais passer de l'autre côté, il rate, et là, allez, vous retournez en Pro D2, retournez avec les pauvres, les grands restent entre eux, alors qu'ils auraient mérité sur le terrain le droit d'accéder au top 14.
J'aime quand tu retrouves tout ton sens, Christophe, je suis absolument d'accord avec toi. Franchement, quand t'es premier, tu devrais monter.
Quand on parle d'un championnat, on parle d'une régularité sur une saison. Et donc, ne pas récompenser une régularité sur une saison, c'est la vocation même d'un championnat. Donc, c'est vrai que c'est au-delà d'être cruel.
Ça ressemble plus en plus à une forme de ligue fermée.
Ça ressemble totalement à une ligue fermée.
Oui, t'en as un qui est descendu, qui monte quand même.
Ok, bon, bravo à Perpignan. Évidemment, on espère que les Grenoblois vont réussir à s'en remettre. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner, ce sont les 24 heures du Mans avec Ferrari en tête. On s'en fout pas, Marc Madiot.
Surtout.
Ah, je sais ton amour pour ce sport. Sarah.
Moi, j'ai dormi, mais il semblerait que Marc, toute la nuit, ait suivi. Donc, on va lui laisser la parole.
Moi, je veux surtout des nouvelles de Nicolas Paolorsi qui dort dans sa cabine depuis 20h. Ça doit sentir le bouc là-dedans. Ça doit être un enfer.
On retrouve notre envoyé spécial au Mans, Nicolas Paolorsi. Salut, Nico.
Salut, les amis. Écoutez, l'odeur, je ne l'ai pas. Mais la nuit a été courte. Bon, je ne vous cache pas.
C'est important de faire un petit point hygiène pour notre ami Christophe Sessieux. Sinon, la course. Ferrari en tête toujours.
Ouais, Ferrari est bien en avance. place par rapport aux autres en termes de performance. Hein. La Scuderia squatte les trois premières positions dans la catégorie hypercar. Il y a que 7 secondes, un peu plus de 7 secondes d'avance entre les deux premières voitures après 16 heures de course. C'est fabuleux quand même, cet écart aussi resserré là entre les prototypes, les voitures qui vont à 350 à l'heure en ligne droite. Il y a Porsche qui essaye de s'immiscer sur le podium, mais c'est très très compliqué. La Scuderia est vraiment au-dessus sur cette épreuve des 24 heures. Je vous rappelle que la Scuderia a gagné en 2023 et en 2024. Hein. Donc on s'oriente vers un troisième succès consécutif au Mans pour Ferrari.
Marc,
Moi je note quand même que la course est intense parce que sur les derniers classements que je voyais, il y avait 5 voitures en une minute, 10 voitures dans le même tour, donc c'est assez exceptionnel au Mans. Donc tout peut se jouer sur des petits détails ou sur des petits incidents de course qui pourraient modifier la donne. C'est sûr qu'aujourd'hui Ferrari maîtrise, domine et nettement supérieur aux autres, mais la course n'est pas terminée.
La course n'est pas terminée. Que s'est-il passé cette nuit? Est-ce qu'il y a eu des choses assez improbables?
Non, il n'y a pas eu de gros crash. Il y a eu un petit carton avec une safety car qui est sortie aux alentours de 2h du matin. Mais les pilotes vont bien. Ça a un peu perturbé la course. Mais sinon, franchement, ça a été une nuit assez tranquille. Il n'a pas plu. Il a plu hier en fin d'après-midi, mais la pluie n'est pas venue perturber vraiment cette course. Pour l'instant, on est sur une édition assez tranquille avec des voitures. Et Marc le disait, qui sont ultra compétitifs parce que 10 voitures en un tour là, à 6 heures de l'arrivée désormais, c'est quasiment jamais arrivé. Ouais.
C'est historique.
Bon, en tout cas, on va suivre ça avec attention. Et dès qu'il se passe quelque chose, évidemment, Nicolas Paul Orsi, nous sommes là dans les grandes gueules du sport pour t'accueillir.
T'as été à la fête foraine ou non, Nico?
Bien sûr. Ah. Alors, concert de Cool and the Gang hier, c'était magnifique. Non, vraiment, il y a plein de choses très sympas. Les 24 heures du Mans, c'est une ambiance en dehors du spectacle qu'il y a sur la piste. Je peux vous assurer que c'est vraiment un truc à faire. Il y a eu 3 heures de concert de Cool and the Gang. Les boutiques officielles sont dévalisées. Les produits dérivés étaient en rupture de stock. Ça génère plus €1 million, hein, sur 24 heures. En termes de t-shirts, casquettes, de goodies, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est assez dingue, hein, Le Mans.
Merci beaucoup, Nicolas. À tout à l'heure. Il est 9h57. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport.
On a dansé ça avec Pascal là-dessus. On a dansé avec Pascal.
Ah là, oui, oui. Là c'est pour vous. Là, c'est votre génération. Là,
ça emballe les sévères.
Les ringards. Ça emballe les sévères.
Tout dans le déhanché, là.
On le dit. Ça va, les ronces, Pascal, d'ailleurs. Bref.
Ouais, ça va. Coussi, coussa.
Allez. Pour capturer un suspense sur le tour, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.